Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Comment réussir l'élevage des caprins? On en parle avec notre invité, Dr. Florent Gamouna, médecin vétérinaire épidémiologiste. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Dr. Florent Gamouna, bonjour.
Bonjour, merveilleux pour l'année qui va commencer, joyeux Noël aussi.
Et merci, vous avez dit médecin vétérinaire épidémiologiste de terrain.
De terrain.
Des terrains, c'est-à-dire?
Oui, l'épidémiologie des laboratoires. Moi, je fais l'épidémiologie des terrains. C'est tout un domaine. Ça peut faire une émission aussi.
D'accord. Voilà, avec vous, on va parler de comment réussir l'élevage des caprins. De les caprins, c'est des boucs, des chèvres, c'est ça, les caprins, c'est
tout
bien
à
ça.
Fait, tout
voilà.
À fait.
Ah, il y a beaucoup de personnes, on le sait, hein, en RDC, qui s'intéressent à l'élevage des chèvres, des boucs, hein, suite à leur forte demande sur les marchés, dans des grands centres urbains comme Kinshasa. Mais pour s'attendre un bon rendement, il faut savoir comment entretenir son cheptel au quotidien, ça dit comment entretenir les chèvres et les boucs qu'on élève. Il y a par exemple aussi l'alimentation et la prévention des maladies qui sont des aspects à ne pas négliger. On va découvrir tout cela avec notre invité. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous voulez intervenir, appelez au 081 890 63 94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. Ah, docteur Flora Ngamouna, donc parlons un peu de caprins. En dehors des chèvres, des boucs, il n'y a que des chèvres de bouc quand on parle de caprins ou bien d'un autre.
Oui, en fait, les caprins, c'est chèvres et boucs, oui. Et puis les chevreaux, le petit. Mais en fait, l'élevage des chèvres ressemble beaucoup à l'élevage des brebis, des moutons, qu'on appelle ovins. Ovins, c'est parmi les petits ruminants, nous avons les caprins qui sont les chèvres et nous avons les ovins qui sont les moutons. Alors, par rapport à l'élevage des chèvres, la première chose qu'il faut retenir, c'est un élevage que nous encourageons beaucoup. Mais son grand problème, c'est d'avoir de l'espace, d'abord, avant de commencer, et de faire un bon choix sur terrain, des races que vous devez élever. Alors, là, nous commençons d'entrée de jeu par le choix des reproducteurs. Il faut savoir que pour le mâle, il faut qu'il soit à l'âge entre 14 mois et 36 mois. Il faut pas qu'il ait des boiteries, il faut pas qu'il y ait des malformations de la mâchoire et de la dentition, pas d'inflammation du fourreau. Les bourses testicules en nombre pair et logées dans les bourses. Éviter les animaux à dos curviligne.
Pour la il faut avoir un mâle bien en forme.
Voilà. Voilà. Oui. Comme chez les hommes, je crois. Choix de la femelle. Conserver les meilleures femelles pour la reproduction. Principe, la femelle ne doit pas avorter souvent ou donner des morts-nés. Réformer toute femelle stérile. Écarter des femelles donnant des petits chétifs. Écarter les femelles avec mauvaise conformation.
Mais parlons du choix. Vous avez dit qu'il faut choisir une bonne race. Ouais. C'est quelle race?
Oui, ici chez nous, c'est surtout la petite race guinéenne qui est en vogue. Cette race est très petite et très rustique, mais elle a une bonne viande exquise, parce qu'en fait, l'élevage des chèvres est élevé pour sa viande et pour le lait. Il y a des espèces laitières, comme la chèvre du Sahel, mais ici, nous avons surtout la petite chèvre guinéenne.
Et comment on reconnaît cette race guinéenne?
C'est une petite race qui n'a pas une grande taille, hein, et qui est en vogue, qui a la robe souvent noire, qu'on retrouve dans nos villages et dans toutes nos campagnes.
Ah, c'est ce qu'on voit également dans des endroits où on vend le cabri,
oui,
donc c'est cette race-là.
C'est
la race guinéenne.
C'est ici à l'ouest, là. Mais quand vous allez à l'est, c'est surtout vers le sud, ex-Katanga et puis vers Luisa là-bas, vous allez retrouver des chèvres un peu plus robustes et plus grandes, mais souvent c'est le fruit de la sélection des races qui viennent de l'Afrique du Sud, surtout la bourgotte qui est une race avec une grande taille et qui a fait des métissages de ce côté-là. Et nous avons des chèvres un peu plus robustes de ce côté-là. Alors, le choix des jeunes femelles, il faut éviter évidemment des bêtes qui n'ont pas une bonne croissance. Si vous voulez retenir des jeunes pour votre élevage, la conformation doit être bonne. Intégrité des organes génitaux, il ne faut pas qu'il y ait seulement un seul testicule. Il faut qu'il y ait deux testicules dans les deux bourses bien visible. Éviter d'utiliser ses propres mâles dans ses propres élevages. Souvent, il faut faire des échanges avec les voisins pour ne pas avoir
Et là, il faut commencer avec un mâle pour commettre femelle.
Les normes sont un peu difficiles à déterminer. Scientifiquement, on parle de entre 20 et 30 pour un mâle, mais généralement, c'est le mâle peut aller jusqu'à 50 parce que dans l'élevage, dans nos villages, le mâle n'est pas très contrôlé. Il peut aller jusqu'à 50 et nous allons voir dans la suite, si on a le temps, les inconvénients par rapport aux deux systèmes. Personnellement, je conseille qu'on donne à un mâle 15 chèvres, tout au plus 20. C'est pour ne pas trop les fatiguer.
Et la reproduction, c'est à quel rythme? Prenons un mâle pour 15 chèvres. Ça va se passer comment?
Ben, en fait, c'est le mâle qui détecte la chaleur. Si vous observez un élevage de chèvres, vous allez voir à un moment le bouc en train de suivre une chèvre, de la harceler presque pour la lutte. La lutte, c'est la monte de la femelle, là, la reproduction. Eh ben, c'est à ce moment-là, il n'y a que le bouc qui sait bien détecter les chaleurs de la chèvre. C'est la même chose pour le bélier avec.
Donc, ça dit, lorsqu'il y a 15 femelles, donc 15 chèvres, ouais. ça sera au fur et à mesure, hein.
Donc, il peut pas monter les 15 à la fois.
Au
fur et à mesure, qui détecte les chaleurs, il les monte, etc. Voilà.
Donc, vous avez insisté, il faut avoir un mâle qui est vraiment en bonne santé, bien en forme, mais pas des défauts, pas de malformations.
C'est ça.
Et vous avez également parlé des femelles, il faut, des femelles qui sont également en bonne santé.
Et surtout les femelles qui n'avortent pas ou qui font des mort-nés. Il faut aussi des femelles qui donnent souvent plus de petits, qui ont des gestations gemellaires, c'est-à-dire qui peuvent donner 2, 3, 4 petits parfois.
Et pour l'espace, lorsqu'on a déjà un mâle avec 15 femelles, on peut avoir un espace...
Par rapport à l'espace, il faut savoir que dans les systèmes en fait, que nous avons, il faudrait construire des enclos, enclos clôturés, et là vous mettez 4 à 5 animaux par hectare. Ça, ce sont des normes scientifiques. Donc si vous avez 4 à 5 animaux par hectare, c'est bon. Mais par rapport au pâturage, il faudrait savoir que dans les pâturages, les bons pâturages, vous mettez 10 à 15 bêtes par hectare et 6 à 10 pour les pâturages moyens.
Mais dans nos villages, on voit généralement derrière à la maison, il y a une espèce d'enclos où on peut voir un mâle avec 3 ou 4 chèvres. Oui. Là également, c'est pas déconseillé.
C'est déconseillé parce que on respecte pas les normes. Et là, on se retrouve devant l'habitat de chèvres. Il y a en fait 3 habitats. Il y a ce qu'on appelle le hangar. Le hangar, c'est là où les animaux peuvent loger avec toiture. Souvent, ça n'existe pas dans nos villages, mais c'est ce qu'il faut. Alors, dans les hangars, nous conseillons un animal pour 0,6 mètres carrés. Alors, pour les parcs ou l'enclos, tel qu'on voit dans nos villages, en principe, on devait mettre 5 animaux par mètre carré. Et pour l'enclos, il faut prévoir un endroit pour la contention, c'est-à-dire pour là où vous pouvez manipuler vos chèvres. Alors en ce moment-là, si vous construisez une sorte d'entonnoir avant la sortie, il faut compter 0,33 mètres carrés par bête. Et tout ça, ce n'est pas respecté. C'est une façon scientifique.
Voilà, alors que c'est des normes à respecter. Mmh. Alors pour une chèvre, on peut mettre bas combien de petits?
En principe, c'est de 1 à 4 même. Il y a des chèvres qui mettent même 4 petits à la fois.
Et c'est là, alors lorsqu'on a déjà le petit qui arrive, il y a d'autres dispositions à prendre aussi par rapport à
le sevrage,
pour élever le petit?
Oui, le petit en principe, il est au lait maternel jusqu'à 4 mois. Et il peut consommer 0,3 à 1 litre d'eau par jour. Mais en fait, il n'y a pas de grandes précautions par rapport à l'élevage, par exemple, des porcs où les petits doivent être aux petits soins. Généralement, les chèvres sont plus rustiques et même les chevreaux s'adaptent un peu plus facilement que les petits porcelets.
Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. Vous êtes en train de suivre le magazine au Capi Service. On est en train de parler de comment réussir l'élevage des caprins ou, si vous voulez, de chèvres et de boucs. Le docteur Florent Gamouna, médecin vétérinaire et épidémiologiste de terrain, notre invité. Si vous êtes intéressé par le sujet, les sujets, vous avez des questions, appelez 081-890-63-94 ou bien vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capi Service.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Gentil Lomano nous appelle du Kenenga, Clément Day nous appelle également de cette même ville, et il y a aimé Minako et Aïsiro. Gentil Lomano, bonjour. Bonjour Gentil Lomano. Et Gentil n'est plus en ligne, on pourra certainement le retrouver plus tard. Clément Day nous appelle également du Kenenga. Clément Day, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à notre invité.
Alors, on vous écoute.
D'accord, je voudrais juste demander à notre invité, j'habite Kananga, mais à 15 km de Kananga, précisément dans le territoire de Dibaya. Quand je vous parle, il y avait une sorte de maladie, et nous avons fait même recours aux docteurs vétérinaires, mais les recherches et tout ce qu'ils avaient fait étaient vraiment sans succès. Il y avait une maladie qui a tué beaucoup de chèvres. Quand je vous parle, dans ce territoire, il n'y a pas même de chèvres. Alors, cette maladie pouvait se manifester à l'anus avec des petites plaies. Et puis, urine, on faisait que le sang, au niveau des narines, il y avait même du sang, à la bouche, du sang, partout là. Alors, si normalement nous voulons contribuer, soit favoriser cet élevage des caprins et que cette maladie revenait, dans ce cas, je voudrais juste demander juste à l'invité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir et de quelle façon améliorer normalement l'élevage des caprins. La deuxième question que je voudrais lui demander et ou lui poser, c'est vrai que l'élevage des caprins est vraiment un élevage à haut pourcentage par rapport à certains besoins, et cet élevage peut normalement répondre à la population congolaise, mais en particulier ici à Kananga, alors que l'élevage est laissé dehors, c'est-à-dire c'est laissé, ça n'est pas surveillé. Pourquoi? Puisqu'il y a trop de vols. À ce moment-là, qu'est-ce que nous devons normalement faire? Qu'est-ce que l'invité peut donner comme conseil à ceux qui laissent normalement les caprins passer nuit dehors?
Merci Clément Daye depuis Kananga à Isiro. Aimé Minako est en ligne. Bonjour Aimé. Aimé n'est plus en ligne. J'espère qu'on va retrouver Aimé plus tard. Alors, docteur Florent, qu'est-ce que vous dites à Clément Daye? Vous avez suivi. Il a parlé de cette maladie. Oui.
Oui. Donc, le problème de l'élevage d'abord en Afrique. Il faut savoir que la contrainte majeure pour l'élevage en Afrique, c'est le problème de maladie. Contrairement en Europe où il y a un problème d'alimentation, etc. Nous n'avons pas tellement de problèmes d'alimentation de nos animaux en Afrique parce qu'on a assez de terrains, surtout par exemple l'élevage des chèvres là, et puis on a des résidus des champs, etc. C'est facile à élever dans nos pays par rapport à l'alimentation. Mais le grand problème en Afrique, c'est le problème de la présence des maladies. Et là, je reviens un peu pour le problème de la maladie des chèvres. La plus grande maladie que nous redoutons, c'est la PPR, la peste des petits ruminants. que c'est une maladie qui se remarque saisonnièrement, où on voit dans les villages des quantités d'animaux qui meurent, parfois brusquement sans présenter des signes de maladie, parfois aussi certains symptômes peuvent arriver. Mais cette maladie, en fait, n'est pas redoutable parce que les vaccins existent. C'est une peste que nous maîtrisons facilement. Et actuellement, l'État est en train de faire un gros effort pour la vaccination des masses à travers les fonds propres de l'État, à travers aussi.
Donc il suffit seulement de vacciner.
Quand vous vaccinez contre la peste des petits ruminants, votre animal a une immunité de 3 ans. Donc pendant 3 ans, cet animal est tranquille.
Il y a rappel après 3 ans?
Oui, après 3 ans, il faut faire le rappel. Mais en fait, le grand problème, c'est quoi? C'est que les éleveurs de chèvres chez nous, et tous les éleveurs attendent toujours la gratuité. L'État n'a pas toujours l'argent pour vacciner gratuitement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est introduire. Quand vous êtes éleveur, il faut savoir mettre la main en poche. Ce sont vos animaux. Ce sont pas les animaux de l'État. Quand vous vendez, vous n'allez pas déposer l'argent à la banque dans un compte de l'État. C'est pour vous. Donc, élever signifie vous-même, vous prenez d'abord en charge vos animaux. Évidemment, l'État peut intervenir de temps en temps. Quand il y a des sinistres comme ça, on peut faire des vaccinations de masse.
C'est surtout, surtout pour des maladies. Ouais.
Le vétérinaire passe chez vous et qui vous dit que pour vacciner votre chèvre c'est 1000 francs ou 1500 francs. Mais autant perdre les 1500 francs que de perdre toute une chèvre que vous vendez à 50 000 ou à 60 000 francs. Donc ce sont des choses comme ça que nos éleveurs n'ont pas encore compris. Ils attendent toujours la gratuité. Pour parler de la vulvovaginite, ça c'est une maladie assez simple. C'est question d'utiliser des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Le grand problème aussi, c'est que les éleveurs ne veulent pas faire intervenir les vétérinaires. Ou ils appellent les vétérinaires trop tard. Pour eux, le vétérinaire doit venir traiter gratuitement. La notion de gratuité est en train de remettre en arrière l'élevage dans notre pays, un peu en Afrique. Ailleurs, un peu moins. Parce que quand je vois en Côte d'Ivoire où j'étais, que le médecin vétérinaire installé dans les villages et qu'il a ses assistants vétérinaires, il vit de son travail. Ici, chez nous, c'est impossible.
Mais pour les personnes qui ont un cheptel important, c'est-à-dire qui élèvent, pour les grands fermiers, j'imagine bien qu'ils font quand même
un recours. Malheureusement, ils sont à compter au bout des doigts. Donc, quand on parle éleveurs, je suis épidémiologiste de terrain, c'est-à-dire je suis souvent sur le terrain. Quand vous réunissez les éleveurs, vous avez combien de chèvres? J'en ai 2. J'en ai 3. Non. Je crois qu'on doit dépasser ces niveaux-là. Il faut des éleveurs qui aient 100 chèvres, 200, 300, même 1000 chèvres. Ça, c'est ça qui fera le boom économique à travers l'élevage. C'est pas avec 2 chèvres ou 3 chèvres.
Ah, vous avez dit pour la peste de petits ruminants, c'est une maladie qu'on peut éviter.
La vulvovaginite, là, qu'il est en train de citer, là, c'est une maladie facile à traiter si elle est attaquée à temps.
Et quelles sont les autres maladies qui attaquent
Il y a la pastérolose. Il faut aussi des antibiotiques. En fait, il y a la tuberculose aussi, toujours des antibiotiques. Donc, la plus grande maladie que nous redoutons, c'est la pépère. Mais on peut l'attaquer, la maîtriser parce que le vaccin est là.
Voilà, vous avez parlé là de maladies. Et pour ce qui est des aliments à donner...
La nutrition des chèvres est assez facile. Elle broute, c'est un herbivore, c'est-à-dire que son estomac a plusieurs poches. Elle vit de l'herbe, mais en complément, vous pouvez donner des sels minéraux. Et souvent, on ne les fait pas, toujours par souci de ne pas beaucoup dépenser. Et le reste des ménages aussi, vous pouvez donner à vos chèvres, le reste des légumes, etc. Donc, tout ça, ça constitue pas vraiment un grand capital qu'il faut investir pour nourrir la chèvre. Par rapport, par exemple, à l'élevage des porcs. Donc, l'élevage des chèvres, c'est un élevage à conseiller. Mais son inconvénient, c'est que il faut un grand espace. Vous avez vu les normes.
Vous avez suivi Clément Day qui a parlé des chèvres qui sont en divagation.
Exactement. Voilà. Oui.
Sans enclos.
OK. Le problème aussi, c'est que la chèvre, en fait, en tant qu'animal, c'est un animal qui aime la liberté. Mais quand vous l'élevez, vous devez essayer de l'apprivoiser pour l'amener à comprendre qu'elle ne doit pas se décider seule, que vous êtes son pasteur, que vous êtes son propriétaire. Vous devez construire un abri pour lui. Il faut le hangar pour la nuit. Il faut aussi l'enclos. Et dans l'enclos, si vous faites l'enclos, il faudrait respecter les normes qu'on a données là-bas. Dans l'enclos, il faut au moins qu'il y ait 4 ou 5 animaux par en clos, donc ça serait intéressant pour vous de mettre tout ça en pratique. Mais si vous abandonnez vos chèvres dans la nature, en principe, si le nombre devient important, vous devez engager un chevrier, c'est-à-dire un gardien, qui peut suivre vos animaux, que ça vous aide pour comprendre. Parce que souvent dans les villages, quand on fait des ratissages, l'État récupère beaucoup d'animaux sans propriétaire, parce que les animaux ne sont pas suivis. Voilà.
Voilà, nous avons un auditeur en ligne qui nous appelle de Kisangani. Il s'agit d'Alain. Alain, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on vous écoute, Alain. Quelle est votre question par rapport à ces sujets? Comment réussir l'élevage des chèvres ou des boucs?
Oui, je voulais demander seulement, est-ce que la race de Guinée, la race des chèvres, est-ce que je peux mettre au moins des cantres et à la
non, alors, on n'a pas bien saisi. Vous avez, essayez de répéter votre question. Vous dites que la race guinéenne peut faire quoi?
Quatre fois.
Ben, quatre fois. Dans l'invité à...
Je crois qu'il a un peu mal compris. J'ai dit ceci, que en fait, les chèvres sont capables de mettre par gestation... de pouvoir mettre au monde 1 à 4. C'est rare, mais il y a des filles qui mettent à la fois 4 petits. Mais souvent, c'est 1 petit à 2, voire 3. Parfois aussi 4. Alors, par rapport à la durée de la gestation, la gestation est de plus ou moins 5 mois. Parce que ça varie entre 144 jours à 153 jours de gestation. Et après la mise bas, notre chèvre a son petit pendant 4 mois pour lui donner du lait et puis intervient le sevrage. Alors en ce moment-là, elle peut encore être montée, les chaleurs peuvent revenir et ça peut continuer. Généralement, nous disons que une chèvre est capable pour une année et demie de mettre bas 3 fois. Voilà.
Voilà. J'espère que Alain a compris à toutes vos explications. Nicolas nous appelle de Mahagui. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour la radio Capi.
Oui, allez-y, on vous écoute Nicolas. Vous êtes bien en ligne.
J'ai une question à poser à notre invité. Il y a une chèvre qui a une naissance à 5 chèvrettes. Quelle catégorie de médicaments donner à cette chèvre? Maintenant, on est embrouillé par des médicaments à donner à cette chèvre.
Merci, okay. Nicolas, depuis Maïgui. Docteur Florent.
Oui, en fait, c'est une question, comment dirais-je, un peu brute, là, parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Nous disons toujours, vous avez des enfants qui font le vétérinaire, la section vétérinaire. Tout ce qui est problème des maladies, essayez de consulter les vétérinaires. Vous avez des vétérinaires sur place, ce n'est pas à travers une émission, je vais vous dire, achetez un antibiotique, injecté. Vous n'avez même pas le droit d'injecter votre animal. C'est plutôt les vétérinaires qui est là. Essayez d'associer les vétérinaires, ne fût-ce que pour des conseils, ne fût-ce que pour des visites, et peut-être qu'il y a aussi des fois où nous faisons des visites gratuitement. Si quelqu'un a une chèvre et qui m'appelle pour voir, je ne vais pas taxer de grand-chose. Peut-être ce sont des conseils que je peux donner. Alors là, il dit qu'il y a une chèvre qui a donné 5 petits. Voilà. Alors je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça doit être une chèvre guinéenne. J'ai parlé de croisement, n'est-ce pas? Je crois qu'avec le fruit des croisements, on peut arriver à améliorer le score lors de la mise bas.
Le croisement, c'est avec voilà,
deux races différentes. Par exemple, de ce côté-là, il y a des races de lait. La chèvre du Sahel qui est un peu plus grande là. Je ne sais pas si c'est pas un fruit de ce croisement-là. Donc il y a plusieurs petites races de chèvres. En fait, le répertoire des races de chèvres est un peu difficile à établir. Mais sinon, le plus en vue ici en République démocratique du Congo, nous avons la petite chèvre guinéenne, nous avons des chèvres qui viennent de l'Afrique australe, surtout l'Afrique du Sud, la Bourgogne, nous avons vers le Sud là, et nous avons aussi les chèvres qui viennent du Sahel, qui sont plutôt des chèvres laitières.
Alors, et pour des endroits où il n'y a pas de vétérinaire, et qu'est-ce qu'il est conseillé de faire lorsque vous avez des problèmes avec votre cheptel, les animaux que vous élevez?
Ok, en fait, l'État a prévu tout ça. Ce que nous faisons maintenant, en tant qu'épidémiologiste des terrains, nous organisons aussi des formations. Des formations souvent gratuites parce que c'est supporté par l'État ou par des coopérations, ses partenaires. Nous essayons de mettre en place des aides vétérinaires, hein, qu'on appelle les AXA, les agents communautaires de santé animale. C'est à ces agents, on apprend la routine, les traitements de routine, comment vacciner, par exemple, comment injecter un antibiotique, etc. Comment reconnaître les maladies les plus en vue. Ces gens-là, on les forme un peu partout. C'est un programme que l'État a mis en chantier. Nous avons fait à l'Équateur, nous l'avons fait dans les Bandundu, on l'a fait aussi dans les Bas-Congo, et là, on est en train d'aller un peu plus, et ça va se faire dans les Maniema, et puis, etc. Voilà.
Donc, si vous habitez en coin, il n'y a pas de vétérinaire, parce que c'est ce que vous n'arrêtez pas d'encourager, hein, les fermiers ou ceux qui élèvent des animaux, à chaque fois qu'ils se posent de problèmes, d'aller, en tout cas, consulter un médecin vétérinaire. Et si, dans votre coin, il n'y a pas de médecin vétérinaire, vous avez parlé
Les agents des communautaires de santé animale. C'est tout un programme.
On le reconnaît facilement.
Non, c'est-à-dire ce sont des éleveurs qui sont là, qu'on forme, qui sont sur place, qu'on a formés dans ces sens-là.
Voilà. Donc, vous avez également insisté sur le fait qu'il y a des maladies, parce que ça, c'est très important de le rappeler. C'est d'ailleurs le but de ces genres d'émissions sur nos antennes. Par exemple, il y a des maladies qu'on peut bien éviter. Vous avez insisté par rapport à la peste et les pierres ruminants qu'on peut éviter grâce à la vaccination, parce que bien souvent, on déplore des cas de beaucoup d'animaux qui sont décimés par cette peste, alors qu'il y a un vaccin. Mm. Vous avez dit, quand un animal, vous avez votre bête qui est vaccinée contre cette maladie, La bête est protégée pendant 3 ans.
Tout à fait.
Et après 3 ans, il y a rappel. Vous avez parlé également de la vulvo-vaginite. Qui est une maladie qui se soigne aussi sans difficulté. Okay. Il faut aller voir. Vous avez parlé également d'une autre maladie qui est très courante.
Pasteurilose. Et là, qui attaque les poumons.
Et là, ça s'est manifesté comment?
C'est des problèmes de toux, des jetages, les jetages nasales. Et puis, difficulté de respiration, la dyspnée, ça peut se voir facilement, même l'éleveur peut détecter ça. Et souvent, le vétérinaire découvre facilement cette maladie, avec les antibiotiques, on peut maîtriser. C'est une maladie qui donne des symptômes presque exactement comme la peste des petits ruminants. Mais il n'y a pas de mortalité intensive comme pour la peste des petits ruminants.
Voilà, docteur Florent Gamouna, médecin vétérinaire épidémiologiste de terrain. Avec vous, on a parlé de comment réussir à l'élevage des caprins, c'est-à-dire des chèvres et des boucs. Peut-être qu'il y a Dijon qui aimerait entrer en contact avec vous pour d'autres précisions. Est-ce qu'il y a un numéro de contact?
Oui, moi, c'est le 081 65 11 013. Et les 09 71 084 971.
Vous voulez bien répéter le deux numéros?
Oui, pour les Vodacom, c'est 081 65 11 013, et pour le RTL, c'est 09 71 084 971.
Merci, docteur Florent Gamouna. Mmh. C'est un plaisir que vous soyez de notre dans ce studio pour aborder ces sujets.
Par rapport aux signes de, parce que les gens doivent reconnaître facilement les animaux malades et les animaux qui ne sont pas malades.
Oui.
Les signes de mauvaise santé, il y a l'apparence triste, il y a la marche nonchalante et lente, il y a les poils qui ne brillent pas. L'animal n'a pas d'appétit, il y a l'amaigrissement, et si vous touchez les oreilles, elles sont souvent froides. Parfois aussi, le corps a de la chaleur exagérée, et puis il y a les problèmes de chétivité, les animaux qui ne grandissent pas. Ce sont les grands signes qui nous montrent que les animaux sont malades un peu. Et il y a aussi des signes de bonne santé, l'œil est vif, le regard est vraiment pétillant, et le poil lisse et brillant. Et l'animal a bon appétit, n'est-ce pas? Il grossit bien, il grandit bien. Et là, ce sont des signes de bonne santé.
Alors, dès que vous apercevez ces signes, n'hésitez pas à aller consulter
un
médecin vétérinaire. Okay. Merci beaucoup, docteur Florent Gamouna. Nous rappelons que vous êtes médecin vétérinaire.
Évidemment, il y a aussi les castrations. On peut castrer les mâles qu'on ne veut pas qu'ils soient reproducteurs, les jeunes là. On peut les castrer soit avec des élastiques appropriés, soit avec des pinces qu'on appelle les petites pinces burdizo.
Vous avez beaucoup de choses à dire.
Beaucoup, hein, vraiment.
Comment
beaucoup.
Reçu les oui, capins.
C'est pour ça que
merci beaucoup, docteur Florent. On pourra y revenir prochainement. Merci d'avoir été de notre voix.
Merci beaucoup. Au revoir.